Alain Chamfort, vous l'avez rencontré il y a un moment maintenant, c'était plutôt au début de votre carrière dans la musique?
Alors Alain Chamfort, je l'ai rencontré tout au début où je faisais de la musique, mais je l'ai rencontré pas en tant que parolier, parce que j'avais fait son clip, je sortais de la publicité.
Au début des années 2000?
Oui, je sais plus, non, un peu plus tard que ça quand même, oui, fin 2000...
2005 je crois.
Ouais, c'est ça, 2005, voilà. Au moment où il avait été viré par sa maison de disques, et il voulait faire un clip pour mettre en scène ça, et il savait pas comment le faire, il y avait pas d'argent, et un ami commun lui avait dit, écoute, je connais un publicitaire qui est pas maladroit, peut-être... C'est un truc de publicitaire, peut-être que... Et je l'avais rencontré, justement, on avait fait ce clip qui s'appelait « Les beaux yeux de l'or ». Et ce clip a bien marché, il a eu la victoire de la musique, donc ça nous a un peu soudés, parce qu'il a dit « Ah, bah dis donc, c'est chouette, il a des idées ». Et puis, j'ai enchaîné avec lui, il avait une captation de concert à faire, et il me dit « Ah, je sais pas comment faire, parce que j'ai toujours la même chose, la captation de concert ». Et puis, il avait cette idée de faire un concert surprise au Jardin du Luxembourg, qui n'était pas annoncé. Et donc, il allait dans le kiosque du Jardin du Luxembourg, il s'est installé. Alors, il y avait l'autorisation au Jardin du Luxembourg, mais ça a été annoncé nulle part. Donc on a filmé les techniciens qui sont en train de mettre les choses et puis petit à petit ça s'installe et puis les gens qui s'arrêtent, les curieux, et puis Alain il arrive et puis à la fin il y a vraiment plein de gens et donc tout est filmé comme un petit court-métrage. Pareil, on avait une citation aux Victoires de la musique, donc en fait moi j'avais des idées puis lui il les prenait et donc c'était chouette, on est devenus amis mais moi j'étais pas du tout, on faisait pas du tout des chansons ensemble et on a commencé à faire des chansons ensemble genre 5 ou 6 ans après, quand j'ai eu une idée d'album sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Et là, je lui ai proposé des textes. Et effectivement, c'était la première fois qu'on a travaillé en tant qu'auteur-compositeur sur un album. Donc, c'est une amitié qui dure depuis 2004, 2005. Par contre, on travaille en tant qu'auteur-compositeur que depuis 5-6 ans, quoi.
Et alors, quel artiste a chanté vos premiers textes?
Alors, mes premiers textes, c'était pour un film musical qui s'appelait « Fille perdue, cheveux gras ». En fait, ça a été la transition qui s'est passée entre la publicité et la musique. Moi, j'étais créatif publicitaire. Et un jour, on m'a appelé en me disant, est-ce que... Alors, je rêvais, ce qui est dingue, c'est que je rêvais de faire des chansons pour envoyer des chansons à des gens, enfin, comme les gens qui nous écoutent, qui veulent écrire des chansons. Comment on fait? Alors maintenant, c'est peut-être facile par Facebook d'envoyer des chansons à des artistes. Moi, à l'époque, je savais pas comment faire. Et il y a un film qui se faisait qui s'appelle Fille perdue cheveux gras. Quelqu'un devait faire les paroles. Je crois que c'était Zazie. Et puis finalement, le tournage a été avancé et il y avait plus du tout de délai. L'artiste pouvait pas faire les paroles et quelqu'un a dit « Ah, faudrait demander à un publicitaire parce que ils ont l'habitude de travailler vite, sous la pression. » Et puis c'est tombé sur moi, comme dans la publicité, j'étais un peu connu. Et ben voilà, on m'a demandé « Est-ce que tu veux pas faire les paroles de ce film ?» Et c'est vraiment mes toutes premières chansons qui sont sorties. Et donc c'est chanté par une chantée par Marina Foïs, une par Amira Kazar, une par Olivia Bonamy. C'est les chansons de ce film qui sont... un peu de la variété au second degré, puisque le réalisateur Claude Duty est fasciné par la musique des années 80, qu'il prend pas au premier degré. Enfin, je sais toujours pas s'il le prend au second degré ou au premier degré, mais bon, par des choses très décalées. Et le film est très décalé, je sais pas si vous l'avez vu. De temps en temps, on tombe sur des gens qui ont envie perdu cheveux gras. À partir de là, j'ai croisé une maison de disques. La maison de disques qui a produit ces chansons. Et on m'a proposé effectivement de faire des chansons. Ils m'ont dit, si tu veux nous envoyer des textes, nous on peut les présenter des artistes. Et je crois que la première personne qui a chanté une de mes chansons, c'était Morane, les Antipodes, oui.
Mais alors, assez tôt dans votre seconde carrière, on peut dire, dans la musique, vous avez écrit Le Soldat Rose et ça a rencontré un succès énorme.
Oui, c'est assez bizarre parce que tout me semblait normal. Moi, je venais de la publicité où ça marchait bien. On a écrit Le Soldat Rose avec Louis Chédid. Alors vraiment, ça a été écrit comme un tout petit projet, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne savions ce que ça allait devenir. On n'avait aucune idée du casting. On a écrit toutes les chansons sans avoir d'idée de casting. Pour être honnête, c'est plus Louis d'ailleurs qui avait en tête l'idée de ce que ça allait devenir. Moi, c'était mon premier projet. Déjà, j'étais face à Louis Chédid, j'étais hyper impressionné. Louis Chédid qui est auteur, qui est grand auteur. Et puis, alors c'est aussi lui qui m'a mis très à l'aise. Je vois déjà qu'il acceptait les choses que je faisais. Et puis surtout qu'il les faisait pas, parce qu'au fond, quand il me disait il manque une phrase, j'ai très bien qu'il aurait pu la faire, la phrase. Mais je me disais, il la fait pas, il me laisse la faire, parce que voilà, comme ça, les rôles sont bien définis, ce sera toi l'auteur, ce sera moi le compositeur. Et on a fait ce projet qui était vraiment artisanal, qui entre Paris, il a une maison dans le Luberon. Alors moi, je quittais juste la publicité, je me suis dit, c'est vraiment génial de faire des chansons, on est autour d'une piscine. C'était la caricature de, on se levait à l'heure où on voulait, le soir on picolait un peu, on faisait nos chansons. Et puis, on a écrit toutes les maquettes du Soldat Rose, qui était notre petit projet, qu'on aimait bien, c'était chouette. Et petit à petit, il a fallu trouver un casting, et là, c'est Louis Chédid qui s'en est chargé. Puis, je me souviens que le premier, c'était San Severino, donc super, San Severino faisait le conducteur de train. Puis, il me dit, je vais demander à Cabrel, quand même. Et puis il demande à Cabrel, et puis Cabrel dit oui, pas mal. Et puis en fait, à chaque fois, comme il voulait pas trop passer par des maisons de disques, il demandait à des gens qu'il connaissait. Donc c'était, comme il connaissait pas mal de beau monde, d'un seul coup Souchon dit oui, et puis Benabar dit oui, et puis Jeanne Chéral dit oui. Et puis on commence par avoir un casting assez dingue, et puis il dit ah, quand même je proposerais bien une chanson à Mathieu. Il était pas très à l'aise sur bon, est-ce qu'il osera me dire non? Et c'était la panthère noire en peluche qui devait être Mathieu, et puis bon, qui propose à Mathieu la panthère noire en peluche. Et puis Mathieu, il dit ah écoute, moi je préférais faire le soldat rose, voilà. Bah oui, bah super, on n'osait pas te le proposer, mais si tu veux faire le soldat rose. Et d'un seul coup, Mathieu a amené Vanessa Paradis, et donc le casting est devenu complètement dingue, alors qu'on était parti vraiment sans se dire on va avoir. Je dis ça parce que je pense que l'impact du soldat rose a été aussi lié à un moment où ça se faisait pas beaucoup. Parce que maintenant, il y a plein d'albums de reprises de tout le monde, plein d'albums de duo. Donc, on a l'habitude de voir des castings fous. Au moment où c'est sorti, je me souviens quand l'affiche est sortie dans la rue avec Jeanne Chéral, l'album de la Simone, Vanessa Paradis, M, Louis Chédid, Souchon, Cabrel. Enfin, c'était complètement dingue. Et puis, ça a cartonné. Et puis, moi, ça semblait normal. Puisque je me suis dit, bah oui, c'est...
Ça vous a pas impressionné que votre premier projet prenne une telle envergure?
Non, parce que je pensais que c'était comme ça. C'est horrible, hein, parce que j'avais probablement... Si on est sympa, on dirait l'insouciance. Et si on n'est pas sympa, on dirait l'arrogance de la pub. C'est-à-dire que, bah oui, je fais des trucs et puis ça marche. Donc, ça me semblait tout à fait normal. Bah oui, on vendait plein d'albums. Et puis, je ne savais même pas que c'était tant d'albums que ça. Je dis, ah oui, on aurait pu faire 1 million quand même. On fait 550 000.
Et puis, il y a eu un spectacle sur scène. Il y a eu une captation à la télé.
Tout ça me semblait normal. Alors, ce qui est bien, c'est que... C'était une initiation directement dans le grand bain, c'est-à-dire que initiation à la promo, initiation à des histoires de contrat, initiation à un spectacle, à la télé, tout ça, c'était une bonne initiation, mais tout ça me semblait vraiment normal. C'est après, quand j'ai vu que plus rien marchait, que je me suis dit « Ah bah oui, en fait, c'était enfin que plus rien marchait, que les choses ne cartonnaient jamais comme ça », que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal, c'est plutôt ce que je vis maintenant qui est normal, c'est-à-dire, bon, entre-temps, le marché du disque s'est encore écroulé et tout ça. Mais sur le coup, c'était vraiment dans l'insouciance absolue, ça me semblait assez logique. Bah oui, on fait un disque, on vend des disques, ça passe comme ça. Donc, j'étais pas étonné par tout ça.
Vous avez juste écrit une comédie musicale, quand même.
Oui, alors c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un conte musical. Je dis ça parce que l'intrigue est quand même assez simple. Vous savez, je m'en aperçois maintenant, en fait, de tout ça. Parce que, sur le coup, déjà, quand on est trop dans les choses, on fait pas attention. Déjà que ça dure, c'est-à-dire qu'on continue à parler de soldat rose, que je continue tous les ans à aller dans des classes, aller à des spectacles de fin d'année. Je me dis, c'est dingue quand même, parce que c'était en 2006. Et il y a toujours des gens qui chantent le soldat rose. Alors, la version 1, la 2 ou la 3. Puis, dans les classes, il y a toujours des élèves qui étudient ça. Et puis, j'ai été amené à connaître plein de professeurs des écoles. Et puis, voir ce qu'on a essayé d'y mettre. Et puis, finalement, ce qui marche un peu, c'est-à-dire faire des chansons. On disait, bon, les enfants vont pas les comprendre, mais il y aura les parents pour leur expliquer. On voulait faire des choses, justement... qui crée des dialogues entre les parents et les enfants, c'est-à-dire, bien sûr que les enfants comprennent pas toutes les paroles, mais dans ce cas-là, ils demandent ce que ça veut dire. Il y a que des rimes en ose dans la chanson Au soldat rose, avec des trucs, je me névrose, je me sclérose, échymose, overdose d'échymose. Bien sûr que les enfants comprennent pas, mais bon, après, ils peuvent poser des questions, ils peuvent faire des jeux. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les écoles, c'était ça, exactement ce qui se passait, c'est que les maîtresses, pardon, je dis les maîtresses, les professeurs d'école, mais c'est vrai que j'ai plutôt vu des femmes, utilisent ça pour développer le vocabulaire, pour faire des rimes, pour faire des choses, et que c'était au fond ce qu'on voulait. Et c'est maintenant que je me rends compte que l'impact que ça a eu, alors que sur le coup, je m'en rendais pas trop compte. Ça me semblait, je vous dis, un petit peu normal.
Et en plus, il y a eu une suite, un deuxième et un troisième volet.
Ouais. Alors, comme on m'en parlait tout le temps, comme j'allais dans les écoles, et puis les enfants me posaient les questions tout le temps. Oui, mais alors, mais pourquoi? Mais alors, dans ce cas-là, oui, mais alors, il a pas retrouvé sa fiancée. Oui, mais alors, ils sont tous les deux là.
Les enfants avaient plein de questions.
Oui, et puis alors, sincèrement, on voulait pas le faire. On n'a jamais voulu faire un 2 et un 3. Et puis le 2, à un moment, il est venu, mais sans travailler, c'est-à-dire à scooter. On y pense, je reviens d'une école, et puis je repense à ce qu'ils ont dit. Oui, mais alors il est quand même resté rose. Il est malheureux d'être resté rose, parce qu'on n'a pas résolu son problème. Il était malheureux parce qu'il était rose. Et puis petit à petit, un petit scénario s'est mis dans ma tête. Et puis, on a envie de le refaire cette fois pour en profiter. Comme la première fois, on était un peu dedans, sans savoir ce qu'on faisait. Là, on se dit, bon, là, on va le refaire. Là, on sait ce qu'on fait. On sait que ça va être un projet qui va avoir beaucoup de visibilité parce qu'il est connu. On sait ce que ça peut devenir. Donc, on fait le 2 au début avec Louis. Puis après, sans Louis qui voulait pas le composer. Et puis le 3. Et moi, je le fais toujours avec le même plaisir. Alors, ça va de moins en moins. Enfin, le deuxième a moins bien marché que le premier. Et le troisième moins bien marché que le deuxième. Il y a le marché de disques qui s'écroule. Il y a plus la surprise. Mais bon, en fait, moi, je les aime de plus en plus. Je parle que de mon travail à moi. Je trouve que les chansons du 3 et du 2 sont mieux écrites, en ce qui me concerne, que les chansons dues. Après, les compositeurs, le premier, c'était Louis Chédid. Le deuxième, c'était Francis Cabrel. Le troisième, c'était Alain Souchon et ses fils. Là, je ne me permets pas de comparer. Enfin, de toute façon, c'est très bien. Mais moi, je trouve que les suites sont mieux écrites que le premier.
C'est vos bébés, de toute façon.
Ah oui, oui, c'est, oui, oui. Oui, moi, j'aime bien. C'est mon univers. Et puis, ce qui n'arrive pas d'habitude, c'est des chansons dont le destin est entre mes mains. Parce que quand je fais un texte pour quelqu'un, je ne maîtrise pas la musique, je ne maîtrise pas l'interprète, je ne maîtrise pas les arrangements. À un moment, le nombre de fois où je découvre ma chanson sur l'album, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que ta chanson est sur l'album. Ah bon, mais je ne l'ai pas entendu. Oui, et puis vous découvrez qu'on a enlevé une phrase.
Permettre de modifier comme ça?
Bon, on ne devrait pas, mais oui, il y en a qui font. Une fois que c'est sur l'album, c'est trop tard. Alors, j'aime pas trop cette façon de faire. J'ai eu ça, en tout cas. Alors que là, pour le Soldat Rose, je suis que auteur, mais comme je suis le créateur du Soldat Rose, je peux choisir les compositeurs, choisir les interprètes, et puis on peut à tout moment intervenir et dire « Ah ben non, je trouve que là, c'est pas bien, je trouve que ça, c'est... »
Alors que sur d'autres projets, en fait, vous avez assez peu d'influence sur le résultat final.
Oui, très peu. Alors, ça dépend comment c'est fait, une fois de plus. Quand c'est des gens à qui vous parlez, je recite toujours les mêmes, mais que si c'est Woolsey, si c'est Gaëtan Roussel, si c'est Alain Chamfort, vous pouvez parler. Vous êtes autour d'une table, vous pouvez exprimer vos doutes. De toute façon, ils choisiront parce que c'est eux, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ils ont l'intuition que peut-être je n'ai pas, ils ont l'expérience. Mais on peut parler quand c'est des chansons qu'on envoie par Internet à des interprètes qu'on ne connaît pas. Dans le meilleur des cas, on vous envoie la chanson avant pour que vous l'ayez entendue. Dans le pire des cas, je vous dis, moi j'ai eu des chansons, on m'a invité au studio à aller l'écouter. Donc je découvre qu'il manque des choses, on me dit « Ah oui, mais celle-là, c'est trop tard, on a tout produit. » Bon, bah voilà, bon, si c'est trop tard...
C'est un peu un manque de respect.
Ouais, manque de respect, impolitesse. Moi, je trouve que c'est un métier où il y a beaucoup d'impolitesse. Et ça me permet aussi de choisir mes projets. Alors, je suis un peu soupolé pour ça. J'aime bien la politesse, j'aime bien « Bonjour, au revoir, merci. » Et j'espère que moi, je ne demande pas de politesse. Alors, à la décharge de tous ces gens, c'est déjà tellement complexe que si en plus, il faut gérer les compositeurs, les auteurs, les réalisateurs des albums... Les maisons de disques, il y a tout un tas de choses à gérer. De mon point de vue, ils n'ont pas envie que les auteurs, les compositeurs soient des poids. Alors, parfois, ça se passe bien. Parfois, il y a un directeur artistique qui nous dit de changer cette phrase. Mais plusieurs fois, les chansons, je les entends, elles sont produites. Les gens savent ce qu'ils font. Si on vous fait ça, c'est aussi pour... soit vous interdisez la chanson de sortir et il faut être prêt à se fâcher avec quelqu'un, voire avec beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Soit vous la laissez sortir et puis... Voilà, juste après, c'est complexe parce que quand on vous dit « Ah, cette chanson, bof », bah ouais, cette chanson, bof, et puis en même temps, j'ai pas envie de cracher sur les chansons que j'ai faites ou bien sur les interprètes qui m'ont fait confiance, mais c'est vrai que je me dis « Bon, bah, c'est dommage parce que c'est un peu travaillé n'importe comment. »
C'est délicat quand même comme situation.
Ouais, c'est délicat. Alors, on met beaucoup de soi dans tout ça et je connais quelques compositeurs et quelques auteurs qui s'arc-boutent à une phrase parce que « Ah non, mais ça fait la chanson, ça fait... » Et parfois, je trouve, un petit peu à tort, qui sont ultra sensibles, ou si on change leur phrase, si on ne prend pas leur chanson, qui vont écrire des tonnes de mails en exprimant leur déception et tout. Donc peut-être qu'au fond, si on ne me dit rien, c'est parce qu'on a peur que je sois comme ça, que je lutte pour ne pas changer la phrase, ou bien que je tombe en dépression parce qu'on ne m'a pas pris ma chanson, ou bien que il se trouve que moi, non. Alors les gens ne sont pas forcés de le savoir. J'ai quand même l'impression qu'en général, enfin ça j'en suis sûr, tout se passe dans un non-dit et dans un flou absolu où on ne sait rien. Où les auteurs, les compositeurs, en tout cas, ne savent pas. Ils savent à l'arrivée ce qui se passe, et puis ils prennent la chanson telle qu'on leur livre à l'arrivée, quoi.